Et je vais vous parler surtout de Saint Maron, si on peut dire le patriarche, l'ancêtre des maronites, qui fêteront à l'église Saint-Arsène, qui est devenue leur paroisse, près du métro Jean Talon, qui fêteront dimanche midi, en grande pompe, Saint Maron. Donc je vous raconterai la vie, je vous parlerai des maronites. Ce sont des catholiques comme nous, mais disons qu'ils ont des traditions différentes. Et ils viennent originairement du Liban, mais au début de Syrie. Alors, c'est aussi aujourd'hui la fête de Saint Miguel Febres Cordero, un frère des écoles chrétiennes. Je vous ai parlé plusieurs fois des frères des écoles chrétiennes qui ont été tellement gentils à mon égard, les frères des écoles chrétiennes, qui m'ont envoyé quantité de documents sur leurs saints, qui sont très nombreux, j'en vous en ai parlé plusieurs fois. Alors, je me réserve ce beau texte du frère Marcel Gagné sur Saint Miguel Febres Cordero pour une autre année. Hein. Mais ce n'est pas n'importe quel saint, hein. C'est un saint qui s'était distingué par son zèle dans l'éducation de la foi et qui a été renommé pour sa haute culture littéraire. Hein. Ça nous rappelle certains frères des écoles chrétiennes, justement ici au Québec, qui étaient remarquables, très cultivés, extrêmement cultivés. C'est aussi l'anniversaire du décès d'Anne-Catherine Emmerich, cette voyante dont la vie a été des plus extraordinaires. Hein. On ne peut pas raconter sa vie sans s'étonner, s'émerveiller devant les écrits qu'elle a dicté à un prêtre. Elle est morte en 1824. Et puis, c'est enfin la fête d'un bénédictin évêque, Saint Ansbert, mort en 695. Il y a la fameuse Sainte Apolline, qui est une sainte intéressante, martyre à Alexandrie en 249 en Égypte. Et puis, il y a le martyr Nicéphore d'Antioche aussi, c'est à la même époque qu'il est mort vers 260. Et puis, enfin, il y en a bien d'autres, je vous en fais grâce, ce sont des noms tellement curieux. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Nous allons donc commencer par Saint Maron. Je vais vous raconter tout d'abord sa vie. Je puise dans un ouvrage très intéressant, c'est sur les pas des saints au Liban. C'est deux bons volumes qui sont parus récemment de Victor Soma. Et on y trouve des choses extrêmement intéressantes sur toutes sortes de saints d'origine ou de langue arabe ou d'origine peut-être arabe aussi, et aussi quelques saints de l'Église latine. Mais c'est presque rien que des saints de cette région. Avec les noms arabes comme Saint Maron, bien on met Maroun al-Nazek. Et on ajoute toutes sortes de choses, hein, Watalamiz Maroun. Alors je vous fais grâce de mes connaissances de la langue arabe sont absolument nulles. Alors je préfère me maintenir à ma langue maternelle, à Saint Maron, qui était un ermite. Un confesseur, rien à voir là, avec la confession, là, c'est-à-dire c'est la confession de la foi, c'est un confesseur de la foi, hein? Il a proclamé sa foi. Et c'est aussi la fête de ses disciples, ses premiers disciples. C'était un thaumaturge. Hein? Il est né en 340, il est mort en 410. C'est un contemporain de Saint Siméon le Stylite, dont je vous ai déjà parlé, ce saint curieux qui est mort en 459 et qui vivait sur une colonne pendant des années, des années et des années, dont l'influence toute puissante sur les pays arabes était immense. Hein? Saint Maron, qui est père de la grande communauté maronite, et parmi les ascètes de Syrie, qui ont une réputation mondiale. Quand je vous parle de la Syrie, on pense tout de suite aux musulmans. Mais vous savez qu'il y a des catholiques en Syrie. Des catholiques latins, comme nous. Mais il y a aussi des catholiques de différents rites, dont le rite maronite, mais les maronites sont surtout réfugiés au Liban depuis des siècles, à cause des persécutions musulmanes. Les maronites ne sont pas très très nombreux, peut-être 2 millions dans le monde, mais nous en avons à Montréal. Je vous signale que encore qu'ils ont la paroisse, qui partagent la paroisse Saint-Arsène, cette immense église à Montréal qui sera pleine dimanche midi à l'occasion de la grande célébration de la fête de Saint-Maron. Mais ils ont aussi un monastère, tout petit monastère. Le bâtiment est assez grand, mais il n'y a que 3 moines, je crois, sur la rue du Charme à Outremont. Et ils ont des paroisses un peu partout. Ils en ont en Ontario, ils en ont aux États-Unis, en Amérique du Sud. Car ces pauvres Libanais, maronites, vous savez que le chef d'État là-bas est habituellement un maronite. Hein? C'est une vieille tradition. Ces maronites sont tous catholiques. C'est la seule église orientale qui s'est entièrement unie à l'église catholique romaine latine. Comme saint Paul l'ermite, le premier anachorète, qui est mort en 343, anachorète, ça veut dire qui se tient à l'écart, qui se retire, hein, c'est un solitaire, quoi, un ermite. Mais alors, ce premier, comme saint Paul l'ermite, il a mené saint Maron une vie très très retirée. On dit de lui qu'il était fou du désert, ivre de Dieu. Mais inévitablement, des gens comme ça, dans toute l'histoire d'église, ça a attiré la curiosité des touristes. Et particulièrement, les pèlerins, les gens qui se promenaient beaucoup à l'époque dans ces régions-là. Les détails de sa vie nous sont parvenus grâce à un texte de Théodoré de Cyre, son historien. Il y a aussi saint Jean Chrysostome qui a entretenu une correspondance avec lui. Théodoré, lui, était né en 393... Donc, il naît presque la même année que Saint-Simon le Stylite, et est mort en 457. Il était né à Antioche, 17 ans avant la mort de Saint-Maron. Il a connu Saint-Maron. Et le plus célèbre des disciples de Saint-Maron, Saint-Jacques l'Ermite. Il a écrit, donc, sa biographie. Saint Jean Chrysostome, lui, est mort en 407. Il est évêque de Constantinople. C'est un père de l'Église, Saint Jean Chrysostome, un très, très grand saint. Mais il a été exilé en Turquie, à Cucuzus, sous l'inculpation d'hérésie. Il était touché par la renommée, la sainteté si grande de Saint Maron, qu'il lui a écrit une lettre adressée à Maron, le prêtre ermite, vers 404. Il lui témoignait beaucoup de respect. Il lui demandait d'intercéder pour lui dans sa prière. Saint Maron serait né vers 340, donc à Coroche, c'est-à-dire à Cyre, C-Y-R, Cyre, au nord-est d'Antioche, en Syrie. C'est tout ce que l'on sait. C'est bien peu de choses de la jeunesse et de l'ascendance de ce grand moine ermite, araméen d'origine, donc l'araméen, c'était la langue parlée par Jésus, je vous le rappelle. Hein. Il était syriaque de rite. C'est très compliqué tous ces rites pour ceux qui ne sont pas très au courant. Et vous savez que dans l'église catholique, romaine, latine, l'église à laquelle la plupart des auditeurs ici nous écoutent, là, et vous appartenez à cette église-là, eh bien, alliés à notre église, unis à notre église, il y a une vingtaine d'autres églises. En somme, l'église catholique est une église unie. Les Melkites, qui ont la paroisse Saint-Sauveur, sur Saint-Denis, près de la Gaustière, sont catholiques. Je parlais ce matin au Père Michel, qui m'invitait à aller le voir. Ce sont des Melkites, mais ils sont catholiques, aussi fervents catholiques que nous, mais célèbrent la messe selon le rite byzantin. Vient de partir du studio Monsieur Ovzépian. Jacques Ovzépian est arménien, de rite arménien, catholique. Son épouse est aussi, elle n'est pas de rite arménien, elle est plutôt Melkite, et c'est Lili Tasso. Et c'est comme ça qu'il y en a beaucoup à Montréal, il y a beaucoup de paroisses ainsi où on peut aller. Je vous conseille d'aller dimanche midi à cette grande fête, à Saint-Arsène, pour célébrer Saint-Maron avec les Maronites, qui ont eu beaucoup à souffrir au Liban depuis la venue des Juifs en Israël et qui ont dû déplacer d'immenses populations palestiniennes. Les Palestiniens, en majorité musulmans, se sont installés au Liban. Ça a brisé l'équilibre très instable, mais quand même qui durait depuis longtemps, entre chrétiens et musulmans. Et malheureusement, comme vous savez, il y a eu une guerre dans les années 70 et 80, de nombreux maronites se sont réfugiés ici. Saint-Maron était prêtre, était doué d'une science peu ordinaire qui en fait de lui un grand directeur d'âme. Il a été attiré par les motivations qui sont à l'origine de l'anachorétisme, c'est-à-dire de l'isolement là, et du monachisme, hein, qui était identique dans tous les pays chrétiens du Proche-Orient à l'époque. Hein. On sait qu'en Égypte, il y a eu énormément d'anachorètes. Et quand on va en Israël, on aperçoit d'ailleurs des montagnes au loin, près de Jéricho, et on voit des trous dans les montagnes. Et c'était des cellules de moines. Les gens vivaient dans des grottes, dans le désir de prier et de ne penser qu'à Dieu, et de fuir une civilisation qui était complètement décadente. On dirait que c'est pas la façon de faire, que mieux vaut être présent et de transformer la société. Mais Jésus dit bien à Marie qui est à ses pieds et qui ne fait rien, et Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée quand Marthe, sa sœur, proteste, là, puis qu'elle est à la cuisine, elle prépare le repas. Alors, il avait une idée particulière, évidemment, du destin humain, une façon d'envisager ce combat de l'homme contre le monde et le mal, hein, qui ont poussé les hommes, et les femmes aussi, à partir pour le désert. Il a choisi donc d'élire domicile dans la seconde moitié du IVe siècle, au sommet d'une montagne, une montagne abrupte, à 800 mètres d'altitude, située dans la région d'Apamée. Cette montagne portait le nom de Nabo. En syriaque, on l'appelle Yambo, par référence au dieu païen Nabo, dont il y avait le temple occupait le sommet, et le village avoisinant était connu sous le nom de Kfar Nabo, qui n'est autre aujourd'hui que la ville de Brad. Et là, il a consacré l'autel du temple païen là, à l'adoration du vrai Dieu, le Dieu unique. Saint-Maron a mené là, en plein air, près du temple païen, qu'il avait converti en église, une vie de pénitence et de prière, et ordinairement découvert, d'exposer toutes les rigueurs du temps. Vous savez qu'il fait parfois très froid dans ces montagnes du Liban. Il se réfugiait quelquefois sous une tente de peau de chèvre, et qu'il a fabriquée lui-même, afin d'éviter les grandes intempéries du climat. En principe, il ne voyait personne, mais un disciple lui apportait à boire et à manger, une ou deux fois par semaine. C'est tout, il jeûnait énormément. Sa réclusion s'accompagnait du silence le plus absolu, s'accompagnait de jeûnes, de prières continues, de nuits, des nuits de veille extatiques, des longs agenouillements et des prostrations. Tout ça nous semble tellement loin, mais sachez que ça se pratique encore dans des monastères, et des monastères de femmes, où on aime prier la nuit. Les chartreux prient la nuit, ils se lèvent à minuit. Ils ont de grandes prostrations, pour ainsi dire extatiques, comme on dit ici, de longs agenouillements, des lectures des prières liturgiques aux différentes heures de la journée. Ils vivent de contemplation des merveilles de Dieu. Et lui, Saint-Maron, il contemplait aussi les montagnes. La nature le touchait beaucoup. Il s'emprisonnait aussi dans des espaces restreints des fois, n'en sortant que pour travailler la terre de ses mains, par mortification. Il portait des vêtements rugueux, il évitait de s'asseoir ou de dormir toute la nuit. Et bien puis, il a passé 11 ans, dit-on, dans un arbre creux. On reste un peu éberlué devant des choses aussi absurdes, mais enfin, que voulez-vous? Il est passé 11 ans dans un arbre creux aux parois garnies d'épines pour s'empêcher de bouger, et s'interdisant même de remuer la tête à l'aide d'une espèce de système compliqué là, de pierre qui pesait sur son front. On peut dire qu'il était devenu fou. Il ne semble pas qu'il soit devenu fou du tout. c'est qu'il faut se situer à l'époque. Il vivait pas, lui, après Freud. Il n'a pas connu les analyses de la psychologie humaine. Cet homme vivait à cette époque-là, vers l'an 400. C'est difficile pour nous de comprendre. L'austérité de sa vie a été entourée de dons des miracles. Il a été favorisé. Ça a fait de lui l'une des plus grandes célébrités de son époque. Et les foules ont envahi le lieu de sa solitude. Il y avait des hommes, des femmes qui allaient solliciter sa prière ou partager sa vie disciplinée. Les visiteurs se pressaient autour de son lieu de retraite et recevaient par son entremise, des grâces abondantes. Il recevait des grâces spirituelles, des grâces temporelles, des guérisons. Et ça attisait le désir de quantité de gens de l'approcher, de se laisser instruire par lui. Alors il s'est mis à prêcher, à conseiller ses visiteurs, à consoler les malades, à consoler les malheureux. Alors sa solitude finalement s'est transformée en une pratique intégrale de l'Évangile. L'amour des autres. Et parmi ces hommes et ces femmes attirés par la vie de Saint Maron, les nombreux ont été ceux qui ont voulu suivre ses pas. Alors là, voilà que commencent les disciples. Les uns ont voué une bonne partie de leur existence à la prière, tandis que d'autres s'isolaient sur les cimes des montagnes environnantes, se cloîtraient dans des grottes pour communier avec le divin, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire avec Dieu. Mais parmi ces disciples qui ont peuplé les montagnes, les vallées de la Cérestique, décrit par Théodoret de Cyre, celui qui a écrit sa vie, on trouve Zabena qui a peut-être été le directeur de conscience de Saint Maron, qui louait ses vertus et l'appelait père et maître. On trouve aussi un Saint Jacques qui s'était enfermé dans un ermitage étroit durant 38 ans chargé de fer, ne mangeant que des lentilles mouillées. Et aussi, il y en avait un autre qui s'était enfermé dans une enceinte de pierre, ne parlant aux gens qu'à travers une lucarne. Enfin, il y avait Jean, Moïse, Antiochus et Antonios qui sont épuisés en sacrifices et en mortifications incroyables, comme on les pratiquait jusqu'à assez récemment. Il y avait une sainte, une femme, Domnina, qui après une vie de luxe, a fait construire dans le jardin de sa mère une hutte en tige de maïs et qui s'est installée dedans, ne se nourrissant elle aussi que de lentilles mouillées. Ça ne doit pas être très bon, ça. Il y avait Kira et Marana, deux Alépines. Vous savez que c'est un nom qu'on voit ici, les Alpins. Ce sont des gens qui viennent de Alep, d'origine syrienne donc, qui sont tout à fait des nôtres. Ils sont ici depuis tellement longtemps. Ce sont des Québécois, complètement. Et alors donc, ces bonnes Alépines, d'origine, dit-on, noble, ont vécu dans un endroit assez étroit, hein. Elles se vêtaient de poils et jeûnaient à l'excès en gardant silence toute l'année, sauf durant les 50 jours après Pâques. Tout ça, c'est pour vous donner une idée qu'il n'était pas le seul à exagérer et à faire des choses étranges. C'était une partie, si on peut dire, de la civilisation. Saint Maron est mort vers l'an 410, donc à l'âge de 70 ans, soit 2 ans après la lettre que lui avait adressée Saint Jean Chrysostome, lettre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lorsqu'il a rendu son âme à Dieu, il y a un conflit qui a éclaté entre les habitants des régions avoisinantes qui voulaient s'approprier ses reliques. Toujours la guerre des reliques, on trouve ça souvent dans l'histoire de l'Église, c'est très curieux. D'après Théodoret de Cyre, Saint Maron aurait exprimé le désir d'être inhumé dans la tombe de Saint Zabena, qui représentait pour lui le modèle de la vie édifiante, mais les habitants de Brad, proche de Kfar Nabo, dont je vous ai parlé, cette montagne, sont survenus en masse, se sont emparés de ce trésor tant convoité. Puis, ils ont construit un vaste tombeau, et au début du 5e siècle, une grande église qui a été construite, à l'intérieur de laquelle se trouvait un sarcophage, qui aurait servi à garder la dépouille de Saint Maron. Et plus tard, ses disciples, dit-on, aurait transféré ses reliques. Toujours les reliques, les reliques, les reliques. On attachait une énorme importance jusqu'à tout récemment aux reliques. En particulier, ils ont voulu son crâne. Le crâne au couvent de Saint-Maron, édifié en 452 entre Alep et Hama en Syrie actuelle. Au début du 7e siècle, le crâne fut ramené au Liban, dans la région de Batroun, au couvent de Kfar Aï, là, c'est au moment des persécutions musulmanes. Et puis en 1130, eh bien, la tête de Saint-Maron était transférée au couvent de la Croix, à Foligno, en Italie, afin d'être sûr de ne pas perdre cette tête. Ça a été transporté en Italie par un moine bénédictin, qui était venu en pèlerinage au lieu saint. En 1194, donc 64 ans plus tard, l'évêque de Foligno a fait apporter le crâne dans l'église de l'archevêché où les fidèles ont coulé une statue en argent, imaginez, représentant l'effigie du saint et dans laquelle ils ont déposé ses reliques. Vous savez qu'il y a de ces reliquaires anciens à cette époque-là, vers le 12e siècle, qui sont de toute beauté. Hein. C'est magnifique à voir, c'est difficile, il n'y en a pas tellement parce qu'ils ont été presque tous saccagés dans les guerres de religion et particulièrement par les protestants qui étaient extrêmement contre toutes ces choses-là afin de purifier la foi, purifier le christianisme et rendre le christianisme centré sur l'évangile, sur l'écriture et sur le Christ afin d'éviter toutes ces espèces d'exagérations qu'il y avait dans l'église catholique parfois, ou du moins ce qui avait l'air d'être des exagérations. Et c'est dommage qu'on ait perdu ces reliquaires absolument admirables. Mais il en reste. En 1887, l'évêque de Foligno, de ce temps-là, la fin du siècle dernier, a remis quelques fragments des reliques de Saint-Maron à Mgr Youssef El-Debs, qui était lors de son passage en Italie. Et nul ne dit où ont fini ces reliques, mais on pense qu'elles font partie du reliquaire à Ain Warka, où Mgr Debs a fait ses études de théologie avant de devenir évêque de Beyrouth de 1872 à 1907. Il était évêque très longtemps. Il a fondé le fameux collège de la sagesse, la cathédrale Saint-Georges. Car les missionnaires religieuses du Saint-Sacrement, qui dirigent actuellement l'Institut social libanais des jeunes filles, conservent des reliques de nombreux saints comme Saint Polycarpe, Saint Utilios, Saint Faustin, Saint Antoine le Grand, et Mar Maroun, et Mar Yohanna Maroun, ce sont probablement Saint-Maron. De toute façon, les disciples réunis autour de Saint-Maron ont formé le premier noyau de l'église maronite. Et c'est comme ça qu'a été fondée, si on peut dire, l'église maronite. Ils établirent le centre de leur vie au monastère dédié à la mémoire de Saint-Maron, situé sur les bords de l'Oronte, dans la plaine d'Apamée, dont je vous ai parlé, et de Cire. Et ils ont formé une communauté monastique. Et donc une église qui commence dans un monastère. Ce furent les moines de cette communauté qui constituèrent, au cœur des luttes théologiques, le bastion de la foi la plus méticuleuse, la plus sourcieuse, on peut dire. Chalcédoniens fervents, attachés au concile de Chalcédoine. Ils ont refusé de se rallier à des positions qu'ils tenaient pour hérétiques. Et les maronites ont constitué un patriarcat indépendant, à la fois ennemi des monophysites jacobites et méfiant envers l'église officielle. Alors l'emplacement de ce monastère devait être près de l'église élevée en l'honneur du saint, devenu un lieu de pèlerinage. Ce monastère était constitué par un grand édifice, imaginez, entouré de plus de 300 cellules. Hein. Mais l'argent s'est installé là-dedans, on y possédait en objets d'or, d'argent et en pierres précieuses des richesses considérables. Convient aussi de placer la fondation de ce monastère au 5e siècle, quelques années après la construction de l'église qui était dédiée au patron des Maronites. On sait que l'empereur Martien a fait agrandir ce monastère en 452, et Justinien le Grand, lui, en a fait restaurer les murailles, qui avaient sans doute été renversées par les monophysites. Il était déjà en pleine activité dans les premières années du 6e siècle. Le couvent de Saint-Maron était le centre, le chef-lieu d'un grand nombre de monastères au 5e, 6e, 7e siècle. C'était une fédération qui comprenait 33 monastères, Ça s'est agrandi énormément. Elle était le noyau de l'église, de la nation maronite. Et courageusement, mais ces moines ont tenu tête à toutes les pressions exercées sur eux. Hein. Et comme le siège d'Antioche était vacant, mais les maronites ont pris le parti d'élire un patriarche dont Rome a reconnu la légitimité. Et dans la violence de la persécution déchaînée contre eux par les monophysites jacobites, 350 moines ont été massacrés en 517 sur la route de Dermaroun sur l'Oronte, entre Apamé et Mahama, Amarsema. Et divers couvents ont été brûlés. Mais l'église maronite vénère le martyr de ces 350 moines le 31 juillet. Les chefs de l'église maronite ne purent pas résider dans la ville d'Antioche. Les circonstances, les événements religieux et politiques les ont obligés à demeurer ailleurs. Ils ont habité d'abord le monastère de Saint-Maron. Mais là, l'arrivée des Arabes au temps de l'apparition de l'islam vers 640 a changé notablement la situation des maronites et ces derniers avaient à subir désormais, avec le sort réservé aux chrétiens, là, les violences redoublées de ces ennemis-là. Obligés par l'invasion musulmane de quitter les belles plaines, les maronites ont préféré tout abandonner plutôt que se soumettre et de baptiser avec les musulmans. Et en conséquence, le patriarcat maronite a été transféré au Liban en l'an 327 de l'Égypte, c'est-à-dire en 939 de notre ère après Jésus-Christ, par Saint Jean Maron, à la suite de la destruction du monastère qui était le siège du patriarcat. Puis, après la fixation du siège patriarcal au Liban, les chefs de l'église maronite se sont établis dans les couvents de cette montagne, notamment à Yanou, Maïfouk, Kfar'aï et Kanumbin. Et là, réfugiés dans les montagnes du Liban, les maronites sont devenus, sous la direction même de leur patriarche, les défenseurs. Oui, les défenseurs d'un bastion chrétien que ni les siècles, ni les déchaînements de la force ne devaient briser. Il y a des moines comme ça, le Libanais. Je vous ai déjà parlé, au mois de décembre, d'un saint extraordinaire, Saint Charbel Maclouf, un des plus grands saints libanais de notre temps. J'espère que vous vous souvenez de Saint Charbel Maclouf. Donc, ils ont des ordres monastiques, l'ordre des moines libanais maronites. Ils ont l'ordre à l'Épin, l'ordre Antonin maronite de Saint-Isaïe, une mission maronite libanaise, dite les crémistes, les apôtres. Il y a aussi des ordres féminins, les sœurs de Saint-Jean-Baptiste de Rache, les visitandines maronites, les sœurs de la Sainte Famille libanaise maronite dite de Ibrine. Ils ont des religieuses antonines maronites. Et puis, les sœurs cloîtrées de l'ordre maronite libanais. Il y a les sœurs maronites de Notre-Dame-des-Champs. Les sœurs missionnaires du Saint-Sacrement. Il y a même les sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, fondée en 1935. Elles ont quand même 72 religieuses dans cette congrégation qui dirigent deux hôpitaux, un asile. Elles œuvrent beaucoup auprès des plus pauvres, comme les moines d'ailleurs. Ce sont des gens au cœur généreux. Il y a aussi le couvent de Saint-Maron dans le Casa du Hermel. C'était à Ain Ezzarka, à 500 mètres de la source en aval, rive droite. Il y a une cabine artificielle à 3 étages qui est taillée dans un roc à pic haut de 90 mètres. Elle est connue sous le nom de Der Mar Maroun. C'est le couvent de Saint-Maron. Caverne du moine, quelques hôtels, il y a un escalier.
On peut se poser des questions sur ce que c'est que cet Orient chrétien. C'est un des grands malheurs du Moyen-Âge qui a été, c'était la rupture de cette grande Église unie. L'unité de l'Église n'a pas résisté longtemps à cette brisure de la civilisation antique. Chaque portion du vieux monde a vécu toutes sortes de choses. Il y a eu des diversités qui s'étaient harmonisées, qui sont tombées, les gens se sont opposés les uns aux autres, et chaque parti a fait de sa propre tradition une espèce d'absolu, et méconnu la personnalité légitime de l'autre. Alors le siège du pape à Rome aurait dû être le lien de l'unité, mais il était trop intégré au monde occidental. les papes étaient toujours ou presque des occidentaux. Par ailleurs, l'autorité universelle de droit divin de la papauté n'était pas clairement admise en Orient, et les deux portions de l'Église ont vécu désormais comme étrangères l'une à l'autre, particulièrement à partir de 1054, quand ce qu'on appelle la Grande Église orthodoxe s'est séparée de nous. Et nous nous sommes séparés d'eux. Qui est responsable? On s'est jeté des anathèmes les uns aux autres, et heureusement, depuis plusieurs années déjà, les anathèmes ou les condamnations ont été révoqués, et le pape et le patriarche des orthodoxes sont tombés dans les bras l'un de l'autre, se sont embrassés, ont prié ensemble, et se sont pardonnés toutes les choses qui se sont commises depuis près de 1000 ans. On assiste aujourd'hui à un phénomène d'universalisation qui est analogue à celui de l'Empire romain. Notre civilisation occidentale, ce n'est plus la civilisation tout court. L'histoire se fait sur toute la planète. D'un seul coup, on est au courant de tout ce qui se passe. Et là, les pays du Proche et du Moyen-Orient sont sur nos écrans, deviennent présents à nous. Combien de fois on entend parler des guerres du Liban, et de toutes ces guerres qui se sont déroulées en Irak et partout. Et on voit, et on est au courant, jusqu'à un certain point, grâce aussi à nos journaux, les revues, les livres. Ce sont plus simplement des pays que l'on bat pour exploiter, comme on faisait au cours des derniers siècles, ou à protéger, comme ont fait les Français au Liban. Les Libanais leur sont très reconnaissants, les Maronites en particulier. Mais ce sont des pays maintenant avec lesquels il faut compter et traiter d'égal à égal. Alors, l'Amérique du Nord, l'Europe, s'ouvre aux valeurs des autres cultures. Et nous devons aussi nous ouvrir ainsi à la culture, en particulier des Libanais qui vivent parmi nous, et aujourd'hui en particulier des Maronites. Nous retrouvons ainsi ce qu'il faut pour apprendre de nouveau à se connaître mutuellement, à nous respecter, à s'estimer les uns les autres. C'est un premier pas pour reprendre une vie commune vraiment fraternelle. Mais en dépit de l'appel réitéré des derniers papes de Léon XIII à Jean-Paul II, je me demande jusqu'à quel point l'intérêt pour l'Orient chrétien est suffisamment éclairé. C'est loin d'avoir pénétré toutes les couches du clergé latin et de notre peuple chrétien en Occident. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai la chance d'être curieux. Et depuis l'âge de 13 ans que j'assiste à la messe des Melkites, j'ai mon missel, j'aime beaucoup assister à des messes arméniennes quand je vais à Paris, dans la grande église qu'ils ont, arménien catholique. Je suis allé souvent à des messes des Maronites, et en particulier des messes des Ukrainiens catholiques. J'ai comme bon ami le père Oscaniu, qui est un Roumain catholique de rite byzantin. J'aime beaucoup ces gens-là. Je trouve qu'on doit ouvrir notre cœur à toutes ces églises qui sont unies à la nôtre et qui ont eu souvent tellement à souffrir. L'église maronite, elle s'est réfugiée dans les montagnes du Liban afin d'être à l'abri de l'oppression musulmane. Elle a vécu dans une semi-liberté pendant des siècles, des siècles et des siècles. Elle s'est développée sans entrave. Et elle a acquis ainsi, à l'époque moderne, une importance qui peut être en apparence hors de proportion avec ses petites et faibles origines que je vous ai racontées. Avant les croisades, on n'est pas trop sûr de leur histoire. Guillaume de Tyr, qui relate leur union à Rome, les estimait à l'époque, il y a près de 1000 ans, à 40 000. Ils ont été liés aux croisés. Ils sont entrés même dans la bourgeoisie franque qui s'était déplacée de France jusque dans ces terres-là avec les croisés. Leur sympathie pro-occidentale aux Maronites a été énormément augmenté à partir de ce temps-là. Au XVIIe siècle, d'ailleurs, un des leurs était nommé consul de France, mais imaginez, à Beyrouth. Louis XIV, d'ailleurs, les considérait comme faisant partie de la nation française. Ça allait jusque-là. Et les relations avec Rome, qui ont été interrompues durant la période mamelouque, ont été reprises au début du XVIe siècle, et les maronites ont subi fortement l'influence latine dans leur liturgie et leur discipline. Ils ont souvent été formés à Rome, hein, car le pape Grégoire XIII a fondé pour eux le collège maronite à Rome. Ils sont devenus souvent de très brillants spécialistes de l'Orient chrétien, des orientalistes. L'un des grands noms parmi eux, c'est le père Assémanie. Au début du XVIe siècle, le Liban s'est ouvert largement à la civilisation occidentale. Et les maronites ne sont pas restés en arrière. Et c'est de cette collaboration, qu'on peut dire, islamo-chrétienne, là, que date les grandes structures modernes du Liban actuel. Et après les massacres de 1860, le Liban a eu à sa tête des gouverneurs chrétiens jusqu'en 1915. C'était des massacres qui avaient été faits par les Druzes. Pourtant, les Druzes avaient été des amis des maronites. Je ne sais trop ce qui s'est passé en 1860, c'était terrible. Aujourd'hui, le président de la République, comme je vous ai dit, est traditionnellement un maronite. Et puis le patriarche maronite, lui, jouit d'un très grand prestige politico-religieux, même aux yeux des non-chrétiens, malgré l'importance accrue de la population musulmane dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vient d'Israël ou de la Palestine. Les maronites ont joué un rôle politique important en tant que peuple. Hein, au point de vue ecclésial, par contre, ils ont manqué de force parfois pour affirmer la valeur de leur tradition. Ils ont été presque absorbés par nous, les Latins. C'est dommage. On peut souligner toutefois leur activité dans le mouvement catholique qui, au XVIIe et au XVIIIe siècle, a touché les Melkites, les Jacobites puis les Arméniens. L'Église maronite compte en Orient et dans la diaspora, on peut dire, plus de 1,5 million de fidèles. Ça a beaucoup de potentiel, c'est peut-être même 2 millions. Beaucoup, beaucoup de potentiel religieux, beaucoup de connaissances, beaucoup de pouvoir dans la société. Ce sont souvent des gens très instruits, des gens très aptes aussi aux questions bancaires, aux questions administratives, aux industries, au commerce. Ce sont souvent des professionnels aussi, des gens très compétents, très brillants. Ils ont aussi une grande vocation œcuménique et missionnaire à jouer entre l'Église catholique et les autres églises. La réforme liturgique qu'ils ont amorcée, qui entend restaurer le rite maronite dans sa pureté syrienne primitive, me semble être une excellente chose. Ils veulent s'adapter aux circonstances nouvelles. Il me semble que ça peut aider de plus en plus cette communauté maronite à réaliser sa mission. Le rite maronite, c'est le seul parmi les rites orientaux qui ne soit suivi que par des catholiques. Il n'y a personne de maronite qui ne soit pas catholique. Cela vient de ce que la nation maronite tout entière, au sein de laquelle ce rite s'est formé, a fait vraiment son union profonde avec Rome, avec le pape. Les maronites sont des Libanais, comme les Melkites, et sont des Syriens, si vous voulez, comme les Jacobites. Ils n'ont constitué un groupe à part qu'à la suite là, des querelles religieuses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour mieux marquer encore leur différence avec les autres églises, ben, ils ont modifié le vieux rite syrien d'Antioche, qui leur était commun avec les Jacobites, ou les monophysites là, de Syrie. Ils ne parlent plus le syriaque, mais l'arabe. Ils habitent principalement le mont Liban, ou la montagne blanche au Liban. Le rite maronite n'est donc pas autre chose que le rite syrien d'Antioche, modifié au cours des siècles. C'était remanié encore après leur conversion au catholicisme, afin de le faire ressembler davantage au rite romain. Il emploie, comme le rite syrien proprement dit, l'ancien araméen, qui n'est plus parlé depuis longtemps en Syrie, Et les textes sont écrits de la même façon que chez les Syriens, et se lisent de droite à gauche, comme pour l'hébreu et la plupart des langues orientales. Les églises maronites sont construites sur le modèle des églises latines. Donc attendez-vous pas à trouver des iconostases, des icônes, trois autels, etc. Donc il n'y a pas de mur devant le sanctuaire, ni de rideau. Les vases sacrés sont également les mêmes que dans notre rite latin. Sauf qu'ils ont des détails, comme un astérisque, une petite étoffe, là, dont le prêtre se sert pour maintenir l'hostie consacrée. Toutes sortes de petits détails dont je vous fais grâce. Vous les remarquerez si jamais vous assistez à ça. Les costumes des ministres, d'ailleurs, les prêtres, offrent un curieux mélange des ornements usités dans les autres rites syriens puis dans le rite latin. C'est pas toujours le cas. J'en ai vu qui ont célébré avec des ornements absolument identiques aux nôtres. Les maronites emploient pour la messe le pain azim, qui a exactement la même forme que l'hostie latine. Alors, c'est pas du tout comme dans les autres rites. Ils ne communient plus les fidèles que sous l'espèce du pain, d'ailleurs. La messe, usitée chez les maronites, c'est celle que la tradition attribue à Saint Jacques le mineur, celui qu'on appelait le frère du Seigneur, le premier évêque de Jérusalem. Mais elle a subi des remaniements qui la rapprochent beaucoup, donc, de notre messe, comme je vous ai dit. La liturgie de Saint Jacques, c'est la seule employée par les maronites, mais ils y ont introduit des anaphores ou des canons qui varient suivant les jours de fête. À peu près comme la préface ou d'autres prières dans notre messe latine. Hein? C'est une particularité qu'ils ont en commun avec les Syriens puis les Chaldéens. Je vous fais grâce de tous les autres détails, j'en aurai à vous dire pendant des heures et des heures, mais tout cela est inutile. En somme, grec de Byzance ou grec melkite de Syrie ou du Liban, les Nestoriens, les monophysites jacobites ou arméniens, enfin tous les chrétiens orientaux, depuis le 8e siècle, s'accordent à dire que les maronites étaient monothélites, c'est-à-dire des partisans de l'erreur de Macédonius. C'était un hérésiarque qui prétendait qu'après ce qu'on appelle l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union de la divinité de l'humanité en Jésus-Christ, il n'y avait qu'une seule volonté en Jésus-Christ notre Seigneur, c'était la volonté divine, et que Jésus n'avait pas de volonté humaine. Mais les maronites, en se convertissant au catholicisme, ont quitté cette doctrine. Les maronites font remonter l'organisation, comme je vous ai dit, de leur église, puis le titre de patriarche d'Antioche, que porte leur chef, à ce moine du couvent de Saint-Maron, au 7e siècle, nommé Jean Maron, qu'il considère évidemment comme un saint. Guillaume de Tyr raconte qu'en 1182, les maronites se sont rapprochés par une inspiration du ciel du patriarche latin d'Antioche, qui s'appelait Amaury. C'est un nom, un prénom qu'on donne encore aujourd'hui en France, Amaury. J'ai connu un type qui s'appelait Amaury de Lignières. Ça fait très snob, très noble, pardon. Et puis, Guillaume de Tyr raconte que les maronites ont abjuré l'hérésie monothélite, là. Ils étaient 40 000, comme je vous ai dit. Et peu après ce retour en masse, il y a eu des velléités de rechute dans leurs anciennes doctrines. Au commencement du 13e siècle, le pape Innocent III a dû excommunier le patriarche Luc, qui est mort en 1209. Innocent III, c'était l'ami de Saint Jean de Matin, dont il a été question hier. Et alors, le successeur du patriarche Luc, au début du 13e siècle, Jérémie, lui a assisté au concile de Latran, concile catholique. Et puis il a quitté Rome avec un cardinal légat qui a tenu un synode à Tyr afin de rattacher de nouveau la nation maronite à l'Église catholique. Je vous parle de Tyr. Savez-vous que dans l'Évangile d'aujourd'hui, on commence en disant que Jésus a quitté Tyr et Sidon. Ce sont deux villes du Liban, et c'est dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le pape, à l'époque là dont je vous parle, a adressé au patriarche Jérémie, qui était redevenu catholique, une lettre dans laquelle il lui demandait de confesser la doctrine des deux volontés en notre Seigneur. Et au 15e siècle, il existait encore des maronites monothélites, quelques-uns. Puisqu'on dit que ceux de Chypre ont abjuré l'hérésie avec leur archevêque Élie en 1445, et la conversion définitive s'est produite au 16e siècle grâce surtout aux missions d'un jésuite, un Italien, Eliano. Et depuis cette époque, l'union n'a jamais été rompue. Ce sont vraiment nos frères complets à 100%, aussi catholiques que nous, même s'ils ne sont pas tellement nombreux. Il ne faut pas les considérer comme des catholiques moindres. Il faut s'embêter de l'idée. Dans l'union de toutes ces églises au sein de l'Église catholique, tous les catholiques sont égaux, au même point, à ce point qu'ils peuvent devenir papes. Ils ont d'ailleurs des cardinaux souvent. Hein? C'est les patriarches ou des évêques de leurs églises sont souvent des cardinaux. En 1584, Grégoire XIII a fondé, je vous l'avais dit, à Rome, le collège ou séminaire maronite qui existe encore. Et c'est là que se sont formés une pléiade de savants qui ont fait grandement honneur à leur pays. Les plus célèbres ont été les quatre Assémanides, dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais parlé de l'un d'entre eux, qui pendant tout le 18e siècle ont travaillé à faire connaître la littérature et la liturgie syriaque. Ils ont été confinés, les maronites, dans les montagnes du Liban pendant bien des siècles. Ils vivaient dans une indépendance à peu près complète vis-à-vis de l'empire musulman, ottoman. Et les maronites ont conservé intacte la foi catholique qu'ils avaient enfin recouvrée. Ils ont rendu aux autres uniates. Les uniates, ce sont justement ces chrétiens qui sont unis à l'Église catholique, on les appelle les uniates. Donc, ils ont rendu aux autres uniates de la Syrie, ou du Liban, les Melkites, les Syriens, qu'on les appelle, et les Arméniens, les plus grands services. Ils leur ont donné asile pendant les persécutions musulmanes. Au 16e et 17e siècle, ils ont modifié leur liturgie, toujours pour la rapprocher du rite latin. La discipline ecclésiastique était alors pas très bien définie. Il y avait souvent des conflits entre les patriarches et les évêques. De toute façon, ils se sont manifestés, particulièrement au XXe siècle, comme des chrétiens fidèles. Fidèles. Et toutes leurs réunions sont des réunions importantes, ils ont des documents extrêmement intéressants, et en 1860, plusieurs milliers de maronites ont été massacrés, je vous l'ai dit tout à l'heure, par les druzes. Et ça avait été fait, j'avais oublié de vous le dire, avec la complicité du gouvernement musulman turc. Et ces graves événements avaient donné lieu à une intervention des troupes françaises. C'est comme ça que la France est établie au Liban pour défendre les maronites, afin d'établir un gouvernement dont on bénéficie justement ces maronites. Et l'Église catholique française a installé de nombreux centres d'enseignement, des universités et toutes sortes de choses pour former les maronites davantage. Les Melkites aussi en ont profité. Et même les musulmans, beaucoup de musulmans tenaient à envoyer leurs enfants dans ces maisons d'enseignement établies par les Français catholiques. Les maronites ont toujours montré le plus grand attachement à la France, qui les a constamment protégés. Depuis longtemps, depuis François Ier. Et pendant la guerre mondiale, plusieurs d'entre eux, laïcs ou ecclésiastiques, ont été mis à mort en haine de la France. La population était affamée par les Turcs. C'était épouvantable. Et c'est par dizaines de milliers qu'il faut compter les victimes de cette étrange férocité des musulmans turcs qui ont aussi massacré environ 1,5 million d'Arméniens. Tout à l'heure, il y avait ici, assis où je suis, mon bon ami Jacob Zépian que j'aime tellement. Eh bien, c'est un rescapé, sa famille est rescapée de ce massacre abominable, comme Marie-Yvonne Kendergy aussi, que j'aime beaucoup. Cette grande musicologue qui est tout à fait québécoise, comme Jacob Zépian. Le chef de l'église maronite, c'est le patriarche qui est élu par les métropolites et les évêques réunis en synode. Ils ont donc leur patriarche qui reconnaît le pape. Quand il est élu, les évêques notifient l'élection à la sacrée congrégation qu'on appelle Pro Ecclesia Orientali ou pour l'Église orientale pour demander la confirmation du pape, et le pape répond évidemment oui, comme aux autres patriarches orientaux, en envoyant un pallium, c'est-à-dire une espèce de collier de laine qui indique l'acceptation. Ils ont un clergé séculier qui s'était autrefois marié parfois. Le prêtre, le diacre, devenu veuf cependant, ne pouvait pas se remarier. Je crois que c'est encore le cas au Liban. Mais les évêques ne sont jamais mariés. Les maronites ont vu leur nombre réduit du tiers à la suite des persécutions que leur ont fait subir les Turcs, mais ils se sont multipliés heureusement et sont de plus en plus nombreux. Le problème, c'est que, répandus à travers le monde, ils risquent d'être absorbés petit à petit. Et c'est grandement dommage. Grandement dommage. On les retrouve partout. Les États-Unis ont beaucoup de maronites. L'Afrique du Sud, l'Australie. Mais c'est surtout dans l'Amérique du Nord qu'on les retrouve. Au Québec, ici, au Canada, au Mexique. Il y en a au Brésil, en Argentine, en Uruguay. Il y a des centaines de milliers de maronites dans les deux Amériques. Il y a aussi, évidemment, tout sud dans le monde entier. Depuis longtemps, les autorités religieuses se sont préoccupées de conserver, de développer la vie chrétienne. C'est chez gens qui ont eu énormément à souffrir. Ce serait bon d'invoquer l'ermite du Liban, Saint Gabriel Maclouf, dont le corps se conserve intact depuis sa mort en 1898, et qui répand des parfums, et qui est un saint extraordinaire dont je vous ai raconté la vie. La cassette existe, cassette du mois de décembre.